Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il est temps maintenant de pénétrer un petit peu plus dans le grand mystère de l'union entre la nature humaine et Jésus-Christ. Cette union, vous le savez, je pense, se fait dans la personne et non pas dans la nature du Fils de Dieu. C'est évidemment un grand mystère, et ce mystère est tellement étonnant, dépasse tellement nos conditions humaines qu'il y eut au début de l'histoire de l'Église de multiples hérésies à ce sujet. Comment est-il possible que Dieu se fasse homme? Comment peut-on affirmer que cet homme est vraiment le Fils de Dieu, parce que c'est ça la réalité. Jésus-Christ est non seulement un homme, il est tel homme. Et tel homme est le Fils de Dieu. Il dit dans l'Évangile, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Les Juifs comprendront d'ailleurs très bien son affirmation quand il dit qu'il a vu Abraham. Les Juifs lui répondent « tu n'as pas 50 ans encore et tu as vu Abraham ». Et Jésus leur répond en affirmant sa divinité, en leur disant « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et les Juifs prennent des pierres pour le lapider parce qu'il se fait fils de Dieu, parce qu'il se dit Dieu. C'est un grand mystère, évidemment. Nous ne pouvons le connaître que par révélation. Mais tout l'Évangile nous révèle l'union de la nature humaine et de la nature divine dans la personne de Jésus-Christ. Et même l'Ancien Testament avait donné certaines lumières par les prophètes. Par exemple, Isaïe, « Un petit nous est né et son nom sera Dieu fort. » Un petit, donc un petit homme, nous est né et son nom sera Dieu fort. Plus clairement encore, nous avons la première phrase de la première épître de Saint Jean. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont palpé du Verbe de vie, c'est lui que nous vous annonçons. Le Verbe de vie. Il est donc nécessaire, alors on pourrait ne pas se poser de questions. Seulement, ce n'est pas très humain de ne pas se poser de questions, parce que l'homme cherche toujours à comprendre, et si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour que nous comprenions, et c'est en entrant dans le mystère de l'incarnation que nous allons admirer l'œuvre de Dieu, que nous allons entrer en contact avec Jésus-Christ. Méfions-nous bien, mes bien chers frères, que on n'entre pas en contact avec Jésus-Christ simplement par l'amour. Parce que l'amour a un objet, on apporte quelque chose dans l'amour, ou on désire quelque chose. On met en commun dans l'amour. surtout dans l'amour d'amitié, on met en commun. Et donc, il s'agit de savoir ce qui est en commun entre Dieu et nous, et comment cela est mis en commun. Vous allez me dire, il y a la foi du charbonnier. Tout d'abord, la foi du charbonnier, c'est pour les charbonniers. Deuxièmement, la foi du charbonnier, contrairement à ce qu'on croit, est très souvent une foi très profonde. C'est la foi de celui qui ne sait peut-être pas faire un traité de théologie, mais qui comprend les choses de Dieu. Il va donc falloir nous poser deux questions. L'union de Dieu avec la nature humaine, s'est-elle faite dans la nature du Fils de Dieu ou s'est-elle faite dans la personne du Fils de Dieu? Un petit mot sur ce qu'est une nature et ce qu'est une personne. Une nature, c'est ce par quoi la chose est ce qu'elle est. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop compliqué. La nature du chat, c'est ce qui fait qu'il est chat et non pas chien. La nature du granit, c'est ce qui fait qu'il est granit et non pas calcaire. La nature de l'homme, c'est ce qui fait qu'il est homme et non pas ange. Donc cela n'est pas trop compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne? Une personne, c'est ce qui peut répondre « je » à la question « qui » ou « moi ». C'est-à-dire qui assume la responsabilité de cette nature. Lorsqu'une nature est parfaite, par exemple celle de Dieu, la nature divine, il n'y a pas de distinction entre personne et nature, parce qu'il n'y en a qu'un qui peut assumer cette nature, elle est infinie, elle est parfaite. Il n'y en a qu'un qui peut l'assumer, et par conséquent, il y a identité entre cette nature et cette personne. Mais dès que vous avez des natures imparfaites et surtout des natures mélangées de matière comme la nature humaine, à ce moment-là, vous avez plusieurs hommes qui assument une nature humaine. Et donc il y a une différence entre être homme et être Pierre, ou Paul, ou Jacques, ou Jean. Pierre, Paul, Jacques et Jean sont pleinement des hommes. Seulement, d'abord, ils n'épuisent pas la nature humaine, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas tout entière en eux, parce que sinon il n'y en aurait plus pour les autres. Et Pierre, Jacques et Jean ont une personne, sont des personnes, et cela ajoute quelque chose à la nature. Cela ajoute quelque chose, c'est-à-dire le fait d'assumer la nature, le fait d'en prendre la responsabilité, le fait d'être distinct des autres. Et il y a dans la personnalité deux éléments. Il y a le fait d'être distinct des autres. Ça, c'est l'élément négatif. Pierre n'est pas Paul, c'est la première chose qui saute aux yeux. Et il y a un élément beaucoup plus positif qui est assez mystérieux, qui vient de l'être. Les théologiens, les philosophes ont cherché à pénétrer plus avant dans le mystère de la personne, la personnalité, même la personne humaine, hein. Et on arrive là quand même à quelque chose de très élevé, il y a des qualités qu'on trouve chez Pierre, qu'on ne trouve pas chez Paul. Des qualités qui sont des qualités humaines. Donc ça reste une nature humaine. Enfin, il y a des qualités qu'on trouve chez Pierre, qu'on ne trouve pas chez Paul. Il y a un être qu'on trouve chez Pierre, qu'on ne trouve pas chez Paul. Voilà donc, brièvement, la différence entre la nature et la personne. Dans les affaires humaines, c'est assez évident. Seulement, vous comprenez, mes bien chers frères, que c'est très important. Parce que si on ne conçoit pas bien la nature et la personne, même par rapport aux hommes, alors on fait une espèce de méli-mélo, une espèce de bouillabaisse, dans laquelle on ne peut pas se retrouver, et ça vous donne la bouillabaisse moderniste. C'est parce que le modernisme refuse d'entrer dans une étude précise des choses que le modernisme devient une soupe. Et ce que le modernisme refuse le plus, c'est la nature, sous prétexte de dignité de la personne. Seulement, il n'y a pas de personne qui n'ait pas une nature. Et si la personne a une nature qui lui est propre et qui n'est pas celle des autres personnes, alors à ce moment-là, on arrive à des espèces de demi-dieux. Si Pierre est une espèce différente de Paul, alors ils ne sont plus tous les deux des hommes. À la limite, il y en a un qui est un homme et puis l'autre non. Et c'est ce qu'on trouve dans le modernisme. Une espèce de divinisation de la personne. Des bâillissements qui seraient sots s'ils n'étaient pas coupables devant la personne. Il est évident, vous avez ça dans toutes les publicités, chaque enfant est unique. Alors, merci, on le savait bien que chaque enfant est unique. Seulement, il faut rappeler que chaque enfant est un enfant d'homme. Et le caractère unique de l'enfant est important, c'est ce qui fait une personne. Mais son caractère d'homme est très important, parce que si on dit chaque enfant est unique, alors on doit s'émerveiller devant l'enfant, et alors en plus, pourquoi on dit l'enfant est unique? Pourquoi on ne dit pas chaque vieillard est unique? Parce que l'enfant, c'est l'avenir, parce que l'avenir, c'est ce qui n'est pas défini, c'est ce qui sera, c'est ce qui va dépasser, c'est ce qui est au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on est dans une espèce d'évolution divine du monde. Lisez par exemple « Zéro et l'infini » d'Arthur Koestler. Vous verrez très bien ce que c'est que cette fuite en avant d'un monde qui cherche un bonheur futur, une perfection à venir, et qui renie ce qu'il est. Le héros du livre d'Arthur Koestler sait qu'il va disparaître, qu'on va lui mettre une balle dans la nuque, et il en est heureux parce qu'il fait la place à l'avenir. On arrive à une espèce d'esprit suicidaire sous prétexte d'admiration de l'avenir. C'est pour ça qu'il est important de savoir que chaque petit enfant est unique, c'est vrai, seulement c'est un enfant d'homme, et un enfant d'homme, ça se dresse, ça se forme. Un enfant d'homme, ça se forme essentiellement en lui faisant découvrir l'œuvre de Dieu et notre place par rapport à Dieu, notre place de serviteur, puis plus tard, notre place d'ami. Et pour cela, on ne peut pas avoir des notions floues. La philosophie moderne, parce qu'elle a refusé la notion de nature, tombe dans une espèce d'existentialisme, de personnalisme. Vous avez autre chose, tiens, puisque je parle du personnalisme. La place de la personne dans la société. Si on donne Si on ne comprend pas qu'une personne est une nature, alors on ne comprend pas que la personne tient sa place dans la société, et on renverse le rapport entre la société et la personne. C'est-à-dire que on supprime le dévouement de la personne à la société. Enfin, je vous en parlerai une autre fois. Mais c'est pour vous dire que ces choses-là sont importantes. Alors la question est celle-ci. Nous savons pour Jésus-Christ que Jésus-Christ est Dieu. Nous savons qu'il est homme. Alors comment se fait l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ? Le plus simple est de parler d'une union amicale. Vous avez deux êtres de nature de personne. C'est le plus simple, mais c'est le plus faux. C'est pas parce qu'une réponse est simple qu'elle est bonne. Alors on peut se poser la question, y a-t-il une union dans la nature? Alors Saint Thomas va répondre non, il ne peut pas y avoir union dans la nature, parce que sinon, soit vous avez deux natures parfaites qui sont l'une à côté de l'autre, c'est les deux amis dont je vous parlais, soit vous avez une absorption d'une nature par l'autre. Vous mettez une goutte d'eau dans du vin, il n'y a plus d'eau, l'eau est devenue vin. Soit vous avez création d'une nouvelle espèce, par exemple vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène, une étincelle électrique, et vous avez de l'eau. Alors le chimiste va dire, oui mais l'eau, on sait bien que c'est encore de l'hydrogène et de l'oxygène. Oui, ça c'est une manière de parler. Parce que si vous mettez de l'eau dans les poumons de quelqu'un sous prétexte qu'il y a de l'oxygène, vous allez l'étouffer. Et si vous buvez de l'oxygène, cela ne va pas vous désaltérer. Faut, bien sûr, nous modélisons, nous donnons des explications de choses que nous ne voyons pas. Et nous savons que s'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, les atomes doivent bien encore être présents d'hydrogène et d'oxygène avec les électrons, les neutrons et tout le reste. Enfin, c'est un peu une manière de parler. Disons qu'avec de l'hydrogène et de l'oxygène et une étincelle électrique, on fait de l'eau, qu'avec de l'eau et du courant, on peut faire de l'hydrogène et de l'oxygène, mais enfin, l'un n'est pas l'autre. Et donc, si vous avez une union entre deux natures, entre les deux natures divines et humaines de notre Seigneur, une union dans la nature, soit l'une est absorbée par l'autre, comme la goutte d'eau est absorbée par le vin, à ce moment-là Jésus-Christ n'est plus homme, et puis ça fait un changement en Dieu. Comment Dieu peut-il absorber, comment la nature divine peut-elle absorber quelque chose qui lui aurait manqué auparavant? Quelque chose qu'elle n'avait pas, qu'elle digère, si je puis dire. Soit vous faites un être nouveau, à ce moment-là c'est le même problème. Comment la nature divine peut-elle changer pour créer un être nouveau? La conséquence de ces erreurs, de ces hérésies, qui mettent l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ, qui mettent l'union dans la nature, font que, et c'est cela sur quoi insistent les pères de l'Église, pour répondre aux hérésiarques, notamment Eutychès, avec cela, il n'y a plus ni incarnation, ni rédemption. Vous vous rappelez que nous avons vu la dernière fois, le Christ s'est incarné pour nous sauver. Il n'y a plus ni incarnation, ni rédemption. Tout disparaît. Par conséquent, il est évident qu'il faut affirmer que cette nature humaine de Jésus-Christ reste pleinement une nature humaine et qu'elle est assumée par Dieu. Elle est donc assumée par la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la personne de Jésus-Christ agit et par sa nature divine et par sa nature humaine. La personne, je vous l'ai dit, est quelque chose de mystérieux, surtout quand il s'agit de la personne du Christ, parce que c'est une personne divine. Vous vous rappelez, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre la nature et la personne. Parce que cette nature est parfaite, et elle est la nature de Dieu, et Dieu est une personne qui n'a qu'une nature parfaite, et qui épuise, c'est-à-dire qui a toute la perfection de sa nature. Alors, il ne peut pas y avoir une deuxième personne. Dans la Trinité, c'est autre chose. Il ne peut pas y avoir un deuxième Dieu. Il ne peut pas y avoir un deuxième Dieu. Il ne peut pas y avoir une deuxième personne de la Sainte Trinité. La seule réponse possible, c'est donc de dire que la divinité a assumé l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette nature est bien individuée, parce qu'elle a un corps, mais elle a aussi une âme. Et alors faites bien attention, mes bien chers frères, beaucoup de gens se disent « la divinité, c'est un esprit ». Pour animer un corps, il faut un esprit. Et beaucoup de gens se disent « l'esprit en Jésus-Christ prend la place de l'âme, et vous avez donc un corps dont l'âme est la divinité ». Mais alors, ça, c'est pas possible. Parce que justement, vous avez création d'une nouvelle espèce, vous avez un changement en Dieu, Dieu devient l'âme d'un corps, ça peut pas se faire, c'est philosophiquement, j'ai pas le temps là, parce qu'on arrive à 20 minutes. C'est absolument pas possible, et puis un corps qui n'a pas d'âme humaine, alors il n'y aurait pas de volonté humaine. Donc le Christ ne pourrait pas dire « Père, que votre volonté soit faite », il n'y aurait pas d'intelligence humaine en Jésus-Christ. Il n'y aurait donc pas d'action humaine, ce serait un fantôme. Donc faites bien attention, mes bien chers frères. Une nature humaine complète, c'est un corps et une âme. Notre Seigneur avait un corps et une âme. Et sa divinité, sa personne divine, assume une humanité complète. Et nous verrons d'ailleurs dans la suite de nos contemplations, de nos méditations sur Jésus-Christ, que cette humanité de Jésus-Christ est beaucoup plus complète, beaucoup plus parfaite que la nôtre, et qu'elle est pleinement assumée par la personne de Jésus-Christ. Je voulais vous parler de la conséquence spirituelle. C'est trop tard. Je suis à 22 minutes et il faut être raisonnable. Je vous en parlerai dans un prochain sermon. Et je voulais vous parler des conséquences spirituelles et insister beaucoup dessus, parce que j'avais peur de vous faire de la philosophie. Je pensais que vous n'en verriez pas l'intérêt. Je pense, au contraire, que ce que je viens de vous dire est très intéressant. Cela nous fait un peu mieux comprendre l'extraordinaire mystère de la Sainte Incarnation. Et les applications pratiques, eh bien, nous les ferons la prochaine fois. Je ne vous dis qu'un seul mot. Mettez-vous à la place de la Très Sainte Vierge et essayez d'entrer dans la contemplation de la Très Sainte Vierge. Que voyait-elle en voyant son Fils? Elle admirait la divinité, c'est une évidence, parce que par la foi elle la voyait, mais en même temps, elle admirait cette merveille de Dieu fait homme dans son sein, dont elle était la mère. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.